distance, des verstes, des milliers. On nous a dispersés, déliés, pour qu'on se tienne bien, transplantés, sur la terre à deux extrémités. Marina Tsvetaeva.
L'amour des mots. Marina Tsvetaeva et Boris Pasternak. Une correspondance russe. Extrait. 10 émissions d'Hélène Bleskine.
En 1926, Marina Tsvetaeva est exilée en Vendée. Pasternak, lui, vit toujours à Moscou. Après avoir renoncé à l'écriture, Boris Pasternak revient à de nouveaux projets. Tsvetaeva ne semble vivre et créer que par ses lettres. 7e émission.
Boris. Je viens de rentrer de Vendée, où j'ai passé 3 jours, et où je repars le 15 pour 6 mois. Aussi, en te lisant la tête en bas, je suis rentrée à la maison. Non. Je n'étais tout bonnement ni arrivée à la maison, à Paris, ni partie, mais encore debout devant la ligne imperceptible de la marée haute, océan. Boris, j'aime les montagnes, le fait de vaincre. J'aime la fable dans la nature, le devenir, et non l'état figé. La montagne croît sous le pied, de dessous le pied. Tu comprends ce que je veux dire? L'océan pour 6 mois, pour mon fils, pour Alia, pour Sergueï. C'est mon cadeau. Mais Boris, tu ne vas pas rire. C'est aussi à cause de tes vers. Tout lasse. Si tu l'as dit, tu le sais. Et donc il en est vraiment ainsi. J'apprendrai la mer. Je m'exile, Boris, en apprentissage. Les dunes, la plage immense, à perte de vue, ainsi est-ce dit dans le poème. Et ça, pas la mer, mais un ça mystérieux. Pas le moindre arbuste. De désert. Une maisonnette chez des pêcheurs. Une vieille femme de 67 ans et un vieux pêcheur de 74 ans. Pas de connaissances. Cahier, poisson. Boris, depuis Londres. Non, avant. Recule jusqu'au jour que tu voudras. Je ne te quitte pas. J'écris et je respire par toi. En Vendée, j'avais un lit immense. Je n'en avais jamais vu de semblable et en me couchant, je pensais « Avec Boris, ça n'aurait pas été un lit à deux places, mais une âme. J'aurais simplement dormi dans une âme. La Vendée, je l'ai parcourue tout entière, est verte, des carrés de prés. Où sont les fameux talus? Pas de traces. Ou alors Napoléon a-t-il ordonné de les faire raser en l'an 15 ? Pays orphelin où il n'y a que des pièges à lapins. J'en ai presque pleuré. Ma bourgade est un village de pêcheurs, Saint-Gilles-sur-Vie. Vie, c'est la rivière. En haut du clocher, un général napoléonien, Grosbois, s'est fait tuer en observant le mouvement des troupes. Et à 7 kilomètres, à la ferme des Mattes, est érigée une croix, monument à la Roche-Jacquelin, tué en 1815. Les femmes portent des tourelles blanches et des sabots en bois. Les gens sont polis, sans affectation. Des tournures d'antan. Couvrez-vous donc, monsieur. Comme autrefois au roi, une princesse de sang. Ce n'est pas de la géographie. C'est le paysage de mon âme pour les 6 mois à venir. Le poème de la fin, que tu l'aies lu, c'est là qu'est le miracle. Ce qui est fascinant, c'est qu'il te soit parvenu de lui-même, devançant et à présent réalisant mon désir. Les choses n'attendent pas. Elles sont en cela merveilleuses, plus merveilleuses que nous. Tu te souviens de ton mais les choses d'elles-mêmes se démasquent. Boryushka, c'est un signe. J'écris toujours mes lettres à toi dans un cahier, à la volée, tout comme le brouillon de mes poèmes. Je n'arrive jamais à écrire au propre. Deux brouillons, un pour toi, l'autre pour moi. Toi et les vers sont pour moi indissociables. Il ne m'est pas nécessaire de sortir des poèmes pour t'écrire. J'écris dans toi. Répondre à une lettre. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je sais réagir, faire écho, te rendre au millième ce qui est tien. La Russie, pour moi, ce n'est que toi. Il ne peut y avoir deux là-bas. Je suis entièrement en toi. Ma Russie. Quand je dis Moscou, je dis instantanément Pasternak. Au point que s'il n'y avait pas toi, en dehors de ton champ de vision et de prévision, je n'aurais que faire en Russie. Tu es mon ouïe et ma vue en Russie. Si leur champ s'élargit, le mien s'élargira aussi. Ce n'est pas l'aveuglement de l'amour qui parle, je te confie mon ouïe et ma vue. Vois et entends pour moi. La certitude la plus importante. Si tu veux réellement venir l'été prochain ici, je t'aiderai. De l'aide de quelqu'un qui adore tes poèmes. Nous organiserons des soirées, à Paris et à Londres. J'ai des amis musiciens de renom. Nous les inviterons. Ce n'est pas une fantaisie. Écris, allons, compte large. Combien il faut pour le départ? On trouvera un gîte et tout le reste. Nous irons à Londres ensemble. Tenir tout seul pendant une soirée entière, c'est dur. Prends-moi comme renfort. On m'aime. Je lirai des poèmes nouveaux. Ne crois pas ce que l'on dit de moi à Moscou. Je ne fais aucune intervention. Je ne m'occupe pas de politique. Je méprise la droite et ne publie rien chez eux. Je ne te compromettrai pas. Sois tranquille. Je sais ce que je fais. Boris, mon amour pour toi suffit pour bien plus que la vie. Conclusion. L'immortalité.
Le 20 avril 1926. Demain, en me levant, je serai un autre homme. Je me prendrai en main, je me mettrai au travail. Quant à cette nuit, je la passerai avec toi. Les miens sont enfin retirés dans leur chambre. Aujourd'hui, j'avais commencé 5 lettres différentes pour toi. Mon petit garçon a la grippe. Génia est près de lui, ainsi que mon frère et ma belle-sœur. C'était un va-et-vient permanent. Le flot de paroles que tu buvais, que tu extrayais de moi, était sans cesse interrompu. Nous rebondissions l'un contre l'autre. Mes lettres s'en allaient au diable une à une. Comme ton travail est merveilleux. Mais ne me détruis pas. Je veux vivre avec toi. Vivre longtemps, longtemps. Je devais écrire à Voloshine et à Armatova. Bientôt, 2 enveloppes cachetées étaient posées près de moi. J'ai eu envie de parler avec toi, et là, j'ai mesuré la différence. Comme si un souffle d'air était passé sur mes cheveux. Très précisément, t'écrire m'était soudain devenu insupportable et j'ai eu envie de sortir. De jeter un coup d'œil dehors pour voir ce qu'étaient devenus l'air et le ciel dès l'instant où un poète avait nommé un autre poète. Voici nos fers. Voici nous deux tels que nous sommes l'un pour l'autre. Voici la ration de misère à laquelle nous sommes condamnés pour une année encore, à condition que tu sois en vie et que je survive, moi aussi, comme tu me l'as promis. Ma chère amie, je ne plaisante pas. Je n'ai jamais parlé ainsi. Rassure-moi, dis-moi que tu me fais confiance, que tu te fies à mon intuition. Marina, délivre-moi de ce tourment. Dois-je venir te voir maintenant ou dans un an? Il faut que tu m'imagines en train de lire tes lettres. Il faut que tu vois dans quel état elles me plongent. Je cesserai de te répondre, c'est-à-dire je ne laisserai pas les sentiments m'envahir. Je te verrai en rêve et tu n'en sauras rien. Une année, c'est une mesure, je la respecterai. Il s'agit uniquement de travail, d'efforts prolongés destinés à rendre à l'histoire une génération manifestement décalée, la nôtre. J'ai un but dans la vie, c'est toi. Or, tu es justement sur le point de devenir moins but et davantage partie de mon travail, de mon malheur, de mon inutilité actuelle, puisque le bonheur de te voir l'été prochain masque tout pour moi. M'étendre davantage voudrait dire embrouiller. Marina, fais ce que je te demande. Regarde autour de toi, réfléchis à ta vie, uniquement à ce qui est autour de toi. Que ce soit l'image que tu as de moi ou les mots qui ont été prononcés devant toi par tes pêcheurs français, fais un tour d'horizon et saisis le point de départ de ta réponse dans cet horizon et non dans ton désir de me voir. Car tu sais combien je t'aime et tu dois avoir envie de cela. Réponds-moi immédiatement. Je t'envoie ma photographie. Je suis terriblement laid. Je suis exactement comme sur cette photographie. Elle est réussie. Je plisse les yeux parce que j'ai le soleil en face, ce qui la rend particulièrement antipathique. J'aurais dû fermer l'œil. Ne m'écoute pas, moi. Réponds en toute liberté. Je t'en supplie.
Dans un an. Tu es ce bonheur immense qui s'approche lentement. À qui demandes-tu ? À celle-là, qui, du plus loin qu'il lui en souvienne, portait avec elle une lettre 3 jours durant, rien que pour ne pas la lire, et qui, quand un garçon ou une fille qui devait venir 8 jours plus tard venait le jour même, pleurait. Les lettres, les garçons, les filles, tout est toi. Et ma réponse est toujours la même. Tu es l'orage qui ne fait encore que se préparer. Pas maintenant. Vie, travail. 1905 est à prouesse. Parachève. Ligne après ligne. Non, pas des lignes, mais des briques. Brique après brique. Érige l'édifice. Je t'aime. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Tout sera. Quel rêve se réalisera, le tien ou le mien ? Je ne sais pas. Peut-être le mien n'est-il que le commencement du tien. Ma quête. Ta rencontre. Vie tout à fait serein. Le bonheur ne doit pas nous tomber dessus. Comme toi, je suis un éclair de longue haleine. Vis ton jour. Écris. Ne compte pas les jours. Compte les lignes écrites. Je t'aime sereinement. Souverainement. Tu vois, je ne t'écris même plus de poèmes à l'heure actuelle. Ne pas se rendre fou, ne pas provoquer, ne pas éclipser les distances, ne pas te camper au milieu de la pièce, ne pas convoquer ton âme. Car je sais ce que sont les vers. Les vers, ce sont toutes les nuées dont l'air est chargé. Toutes celles qui furent et qui désirent être encore. Toutes celles qui ne furent pas, mais qui désirent être déjà. Les vers sont des incantations. Les vers sont dans une certaine mesure une souveraineté. Boris, sur la photographie, tu es magnifique. Autant Mayakovsky, c'est la volonté, autant toi, c'est l'âme. Le visage de l'âme. Je me souviens parfaitement de toi, chez nous dans l'obscurité, avec la lettre d'Ehrenburg. Quand je parlais avec toi, je levais la tête et toi tu la baissais. J'ai le souvenir de ce geste croisé. Le 1er mai 1926. Boris. Que fais-tu de moi ? Toi-même, tu me demandes de ne pas écrire, mais tu m'envoies ton livre avec ta dédicace. Mais je serai ferme. Je n'écrirai pas sur toi et moi. Je n'écrirai pas maintenant. Je me conduirai comme une amie véritable. Quels poèmes extraordinaires, Danton, par-dessus les obstacles. Boris, ce livre, je dois l'avoir. Sinon, trouve-le, vole-le à tes connaissances. En premier, la tempête de neige. Je me suis trouvé un jour dans une telle tempête, une ville surgit rien que de la tempête, ou encore une tempête surgit rien que de ses faubourgs, avec Tatiana Fyodorovna Scriabina. Nous allions chercher de l'huile, que bien sûr nous n'avons pas trouvée. La tempête nous faisait trébucher, nous envahissait, nous couvrait de baisers. Les palissades de planches et les yeux remplis d'effroi et de bonheur de Tatiana, reconnaissant et son mari et son fils, le souffle, le cher et familier.
La tempête, dans ce bourg où nul pied jamais ne se posa, sinon de tempête ou bien de sorcière, dans ce coin maudit où somnolent les neiges, comme morte, un pied vint un jour et marcha. Attends, dans ce bourg où nul pied ne passa, sinon de sorcière ou bien de tempête, quand un pied passa, un fragment s'envola, à valoir égaré au-dessus des fenêtres. On n'y voit rien du tout, mais ce bourg-là, pourtant, pourrait être en ville, faubourg moscovite, ou bien près à Mosti, à minuit pénétrant, chez moi, l'invité s'éloigna au plus vite. Écoute, en ce bourg, où ne passèrent guère de pied, il ne vit que de vils scélérats. Les feuilles de tremble sont tes messagères, sans voix, comme spectres, plus blancs que des draps. Courant et frappant les portails alentour, partout regardant une trombe de pas. Ce bourg, cette nuit, tu ne les connais pas, tu t'es égaré, toi, veilleur de bourg. Mais tu m'as soufflé, toi, veilleur, en tout cas, dans ce bourg où ne vient pas le moindre bipède. J'ai perdu mon chemin, j'aurais bien besoin d'aide. Ce bourg, cette nuit, je ne les connais pas. Sur les portes, les croix, comme pour une nuit de Saint-Barthélemy. Sévère est la consigne, la fenêtre est comblée et le carreau fleuri. Un sapin de Noël, l'enfance se résigne. Les boulevards ont fait le serment d'irriter les humains, leur complot sans feuillage fulmine. Au point de ralliement, la ville, il faut quitter. Et la tempête fume, entraînant la vermine. Des cristaux malvenus, des boules dans les mains. La neige me fait peur en ses débauches blanches. Les flocons sont luisants comme des fanaux nains. Passant, on te connaît. Et vous aussi, les branches. L'éclaircie apparaît à travers les motifs du blizzard. Coligny, nous avons ton adresse. Des cris, des coutelas. Vous voilà les captifs. Du confort, une croix à la craie en vitesse. Ils se mettent debout et leur camp est construit. Ces bas-fonds, cette écume en tempête fébrile, les neveux rejoindront les grands-oncles. La nuit de Saint-Barthélemy. Hors les murs, hors la ville.
C'était « L'amour des mots ». Marina Tsvetaeva et Boris Pasternak, une correspondance russe. Extrait. 10 émissions d'Hélène Bleskine.
Avec Juliette Roudet, Cédric Lenoir et les voix de France Ducato et Félicien Jutner. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Dimitris Capolan. Assistante, Julie Béressy. Réalisation, Étienne Vallès.
Poème traduit par Eve Malray, Vardan Tchimichkian. Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak, correspondance 1922-1936, est paru aux éditions des Sirtes, traduit du russe par Evelyne Amourski et Luba Jurgensen. Les lettres à Pasternak de Marina Tsvetaeva sont parues aux éditions Clémence Hiver, traduites par Nadine Dubourvieux.